1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix plus
claire? Good morning, Vietnam! Are you drinking?
No. Tonight we present a very warm little story called Kill With Time.
On a un peu dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Suffit que tu fermes ta gueule. Chaque fois, je passerai à l'antenne.
C'est cool, ça va arriver les voisins.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur PFM 99.9 et vous écoutez
Les Décadrés.
C'est bien, je suis en retard. J'aime beaucoup l'harmonie. Alors, bonjour Antoine.
Bonjour Benjamin.
Comment ça va?
Bah ça va Benjamin, et toi Benjamin?
Ça va très bien Antoine.
Merci Benjamin.
Bonjour Ange.
Bonjour Benjamin.
Vous avez décidé de le faire en mode enfant?
Oui.
C'est tellement mignon.
Parce que c'est la joie et la bonne humeur.
Oui.
Oh, mais on n'en doute pas.
On n'en doute pas.
Bon, pour cette nouvelle émission, bah, on va passer aux news.
Ouais, les news de Ben.
Bah oui, forcément, mais j'avais pas envie de dire mes news. Alors, la Cinémathèque a lancé depuis le mercredi 29 juin, et cela jusqu'au 31 juillet, la rétrospective Wes Craven. Oui, notre regretté Wes Craven, celui dont on parle beaucoup, surtout moi, et qui nous manque à tous véritablement, surtout à moi. Alors, redécouvrez les 4 Scream, Freddy, les griffes de la nuit, Wes Craven's New Nightmare, la dernière maison sur la gauche, la colline à des yeux. Bref, toute sa filmo, quoi. Venez redécouvrir le maître de l'épouvante horreur, Wes Craven, à la Cinémathèque française. Sachez que, et là ça peut être intéressant pour les nordistes, vous pourrez retrouver son film rare The Serpent and the Rainbow au Majestic de Lille dans le cadre de la programmation Le Majestic fait sa cinémathèque ou la cinémathèque au Majestic, on s'en fout. Bref, vous avez compris l'idée. Deuxième news intéressante ou pas, Eli Roth. Vous savez qui c'est?
Oui, The Green Inferno, Hostel.
Ouais, voilà, va réaliser le remake du Justicier dans la ville. Death Witch, le fameux Vigilante Movie de Michael Winner de 1971 avec Charles Bronson.
J'ai vu qu'il allait avoir un film d'Eli Roth avec Jim Carrey en rôle principal, c'est
ouais,
celui-là?
Non, c'est encore autre chose.
D'accord.
Parce que non, le film avec Jim Carrey, ça va être d'après une bande dessinée de épouvante.
Ouais.
Mais là, le Justicier dans la ville, ça suit l'histoire d'un gars, à l'époque incarné par Charles Bronson, un papa qui va venger sa femme et sa fille violée. Sachant que la première est morte, la deuxième est traumatisée.
Ah mais tu m'étonnes.
Pour reprendre le rôle de Bronson.
De Bronson.
Le seul et l'unique, le Bruce, le Willis. Oui, bon, on veut bien lui laisser le bénéfice du doute à ce projet, qui a eu un développement particulier, il faut dire, parce que deux autres personnes ont bossé dessus et ont stoppé le boulot pour cause de divergence artistique.
Ouais, bon.
Même si, disons-le franchement, on lui laisse plus le doute que son bénéfice.
Puis, on aime bien Bruce Willis.
Ouais, j'aime bien Bruce Willis aussi, même s'il fait beaucoup de merde. Alors, le film devrait sortir cette année, peut-on lire ici et là, affaire à suivre. Vous avez entendu parler de la série Marseille?
Oui.
Oui. Bon, oui, ça fait une transition un peu violente. Donc Marseille, c'est un produit français marqué Netflix, on est bien d'accord?
Oui, c'est ça. Ouais.
Est-ce que vous avez ri ou est-ce que vous avez été affligé devant ce programme?
Je sais pas, j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas envie de le voir.
Ah, est-ce que vous voulez en parler à des professionnels de votre douleur?
Bah, j'ai pas envie d'en parler, moi, de Marseille.
Ah, parce que sinon, appelez-nous. Mais d'abord, bouchez-vous les oreilles quelques minutes. Au moins fragile d'entre vous qui nous écoutent, sachez qu'une deuxième saison a été lancée malgré tout ce qui a pu être dit de la part du public et des critiques de la série.
Vous trouvez pas ça bizarre? Quand se touche les hommes en parlant de Picasso, hein?
Non, ça n'est pas bizarre, mon cher Benoît Magimel. Non, ça n'est pas une blague, mes chers auditeurs. C'est la magie de la télévision. Non, c'est juste le succès en chiffres de la série, notamment à l'étranger.
En fait, en gros,
qui l'a sauvé.
Il se passe sur le nombre de visionnages de la série pour dire.
Non, je crois que c'est notamment en Chine et en Espagne, je sais plus.
C'est complètement foireux comme.
Ouais, mais c'est fou. Hein.
Ouais,
mais wow. J'ai envie de citer le Gorafi qui avait fait un super article qui disait. Netflix a programmé Marseille saison 2 juste pour faire chier les critiques.
C'est ça, je l'avais vu.
Donc c'est la fin des news et on passe à Antoine.
Oui, on passe à moi et du coup je me permets de revenir sur un monsieur que tu parlais tout à l'heure pendant tes news. Il s'agit de Wes Craven. Alors, il faut savoir que pour l'écriture de cet article, enfin... de cette chronique fut pour moi un périple. À la base, je voulais vous parler de Sherlock et de son dernier épisode nommé L'effroyable marié.
C'est vrai.
Un épisode transcendant de par ses manœuvres scénaristiques folles et qui en même temps nous donne envie de voir les personnages grandir et évoluer. Mais finalement, je me suis dit non. Non, ce sera pas celui-là. Ensuite, j'ai voulu écrire sur Max et les Maxi Monstres de Spike Jonze.
Ah, oui.
Mais finalement, je me suis vite dit, en fait, non plus. Hein, parce que, en fait, je sais pas trop quoi dire sur ce film. Et puis un soir, mon camarade avec un grand K, Benjamin, me parle de la série Scream, qu'il n'a toujours pas fini, en m'évoquant l'arrivée des premiers épisodes de la saison 2. Et quelle coïncidence, parce que plus tôt, j'ai jeté un coup d'œil à la saison 2. Et là, j'ai su que j'avais mon article. Bon, c'est vrai, je vous avais parlé de la saison 1 lors de notre première émission, que vous pouvez retrouver sur YouTube, les décadrés, et vu que la série est un remake...
Ouais, pas sur YouTube, mais aussi... Enfin, sur YouTube un peu, et sur Mixcloud.
Il n'est pas sur Mixcloud.
Ah, bah c'est bien dommage.
Il n'y est pas encore.
Sur YouTube.
Voilà. Du coup, comme je disais... maintenant que je suis perdu, et vu que la série est un remake de la série de films de Wes Craven, hein, que je vous conseille de voir, j'ai décidé de vous faire un remake de ma première chronique. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là?
Excusez-moi, j'ai cliqué sans le faire exprès.
Mais cela nous permettra de nous poser cette question et l'évolution de Scream, la série, ça en est où? A savoir que je me concentrerai plus sur le premier épisode de la série. Mais avant cela, petit préambule à l'histoire. L'histoire se déroule dans la petite bourgade de Lakewood, où un tueur masqué sème la terreur, faisant ainsi remonter hors de l'eau de terribles histoires. Plus principalement, l'histoire de Brandon James, qui par le passé semble avoir fait de nombreuses victimes. Le meurtrier est également fou d'amour par une jeune demoiselle nommée Daisy. Plusieurs années s'écoulent et nous suivons alors une jeune lycéenne de Lakewood, Emma, et qui désormais semble avoir le même âge que Daisy lors des faits. Et c'est ainsi que le massacre commence. Donc, la série Scream est un remake de la série de films Scream 1, 2, 3 et 4. Alors, un remake, comme nous l'avait dit notre cher ami Benjamin lors de la première émission, et je le cite mot pour mot, vous prenez la même histoire, vous la refaites. C'est exactement prendre le même scénario ou autre, la même histoire et la faire. Et parfois, prendre les mêmes plans. Et c'est ce que semble de nouveau proposer Scream saison 2 en faisant un remake version catalogue Ikea des films Scream. L'héroïne, après avoir bien stressé sa race, décide de partir de Lakewood quelques mois afin de tout de même prendre un peu de recul sur toute cette affaire, et aussi après s'être tapé le beau gosse ténébreux. Mais bon, mis à part ce dernier détail, la série reprend le schéma de Scream 4 où l'héroïne revient dans sa ville quelques années après le massacre, sauf que dans la série, rien n'est fin en termes de scénarisation. L'héroïne arrive, pose ses affaires et clac-clac retourne se taper son beau gosse ténébreux, mais n'est pas sûr tout de même de se remettre avec lui, car il y aurait entre guillemets trop de conséquences. En ce sens, la série n'évolue absolument pas. Nous sommes toujours dans un teen show à la Twilight, sauf qu'à la rigueur, dans Twilight, ça peut se comprendre, la meuf va quand même sortir avec un vampire qui, de une, brille au soleil, et qui, s'il lui fait un gosse, est susceptible de lui déchirer l'utérus. Donc bon, là, vraiment, il y a des conséquences, mine de rien, il y a de l'enjeu. Mais ici, après la scène d'introduction qui, entre guillemets, me fait, enfin, entre parenthèses plutôt, me fait également penser à Scream 4, avec le fait qu'on nous montre un film sur un slasher, mais vu par des personnages étant eux-mêmes dans un slasher, en réalité, on flotte dans la facilité tout est emprunté à Scream 4, pour ce début de premier épisode du mois. Alors, la seule chose qui suscite, selon moi, un peu d'intérêt dans cette saison, ça concerne le twist final qu'on trouve à la fin de l'épisode, enfin de la saison 1, sur le personnage d'Audrey, interprété par Bex Taylor, Klaus, qui est l'une des seules actrices qui, je trouve, est potable en termes de jeu dans la série. Mais je vais éviter de vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. Donc du coup, voilà, on flotte dans une facilité de la série pour ados avec ses personnages stéréotypés. En gros, on reprend les mêmes que la saison 1 et on recommence. Et faire un remake, j'ai envie de dire, c'est pas une chose simple. Et bien souvent, c'est la machine à référence qui semble guider ces œuvres si particulières. La saison 2 de Scream ne fait que confirmer les doutes qui subsistaient en moi dans la saison 1. Et ainsi, pour conclure ce petit chapitre de l'émission, je vous dirais, faire un remake d'un excellent film, c'est dur. Mais faire un remake d'un mauvais article d'une première émission, c'est encore plus dur. Alors, je vous abandonne maintenant sur un morceau de Young Blood de Sun Culture qu'on retrouve dans les saisons 2, épisode 3. Like a loaded gun in the way.
reconfirme que l'émission avec la chronique sur la saison 1 de Scream par Antoine est bien disponible sur Mixcloud.
Exactement, j'ai fait une bourde.
Donc c'est les décadrés numéro 1 sur Mixcloud, voilà.
Voilà. Et du coup, Benjamin, nous allons t'introduire.
C'est très généreux. Tu sais que la dernière émission, vous avez fait la même blague.
Oui, mais c'est parce qu'on sait que ça fonctionne sur
non,
toi.
On a dit qu'on allait passer sur toi.
Non, il me semble. Non, Antoine, il m'a dit je vais t'introduire.
Ah bon.
Donc là, il refait un remake de la blague. Ouais,
exactement.
C'est bien, on est encore dans
le. Moi, je suis en mode remake. D'accord. Alors, Benjamin, tu vas nous parler d'un film de Lelouch.
Claude Lelouch.
Claude Lelouch, plus précisément, et qui s'appelle
Un homme et une femme.
Alors, vas-y, parle-nous d'un homme et une femme.
C'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Ou plutôt, c'est l'histoire de la rencontre d'un homme et d'une femme. De la rencontre et de la naissance de leur amour et des difficultés de celle-ci. Donc, quand je dis celle-ci, de leur naissance. C'est l'unique Jean-Louis Trintignant qui incarne l'homme, nommé Jean-Louis Duroc. Ouais, il y a quand même des petits points communs. Et la formidable Anouk Aimée qui est la femme, Anne Gauthier. J'ai bien dit incarné, car les deux acteurs créent une telle harmonie à l'écran et sont si humains, crédibles, si vrais, qu'on croirait voir la naissance de l'amour de Duroc Trintignant et de Aimée Gauthier. Mieux que ça, les noms ne sont plus, les acteurs ont dépassé cela. Ils sont l'homme et la femme, deux inconnus qui se rencontrent. Ils sont des gens qu'on croise dans le quotidien, qui connaissent une situation du quotidien, mais une situation tout de même unique, miraculeuse, qui est l'amour. Oui, je suis très romantique.
Ouais, bah, je vois ça.
Lelouch, lui, les filme, les capte dans leurs mouvements, de loin, de très près, les décadre, les découpe, avec les dialogues, en voix off, créant une sorte de puzzle du duo amoureux. C'est alors à nous de le reconstituer. Plus qu'un duo, Lelouch présente le puzzle du corps double, amoureux, du corps amoureux. Qu'est-ce que c'est ? Aussi, il associe les entraînements de Duroc, sa passion, à l'amour qu'il a pour la femme. Oui, parce qu'il faut dire que Duroc est un pilote de voiture de course. Donc l'amour qu'il a pour la femme et sa passion, dévorante, est l'adjectif qui les qualifie tous les deux, ce sera mieux. Lelouch travaille les images comme si rien n'avait jamais existé avant. Comprenez non pas ici une crise d'ego arrogant, non, il a pleinement conscience de l'héritage de la nouvelle vague qu'il emprunte et qu'il réemploie, mais il ne fait pas d'abord ce travail pour interroger le cinéma. Lelouch raconte une histoire d'amour, un événement à la fois exceptionnel et banal de la vie. Et justement, il la filme comme si c'était la première histoire d'amour et la dernière de ses personnages. Un homme et une femme, rien que ça, un couple, et pourtant, le film réussit à capter toute l'intensité qui se dégage de ce cadre très clos sur lui-même, puisqu'au final, le film suit ces deux personnages. La musique participe à la mise en place de cette intensité. Dans les courses de bolide de Duroc, à coups de cordes imprégnées d'une ambiance de romantisme et de rigueur, où on retrouve aussi cette intensité des personnages dans son thème principal, très doux, et que vous allez écouter à la fin de la chronique. Nervosité, rigueur, douceur, rapidité, mélancolie, nostalgie.
C'est tout moi ça.
Oui. Et des chansons avec des paroles parfois constituées de questionnements, de peur de l'avenir, ou qui mettent en avant le sentiment d'éternité provoqué par l'amour, etc. Donc c'est très romantique. Tout ce qui constitue le récit individuel de chacun des corps est le récit du duo amoureux ou corps amoureux. Donc finalement, un homme et une femme tient de l'anatomie de l'amour, des corps amoureux, des corps blessés. Déjà par la vie, mais qui vont se reconstruire via leur relation. Étrangement, la forme en devient imbibée de cet amour. Et il s'agit ainsi d'un film sur l'amour, sur la romance, et un film d'amour, dans le sens qu'il est fait d'amour, construit d'amour, donc pour ces personnages, ces acteurs magnifiques qui sont incroyables, pour les histoires humaines, l'histoire humaine qu'il raconte, et pour le cinéma. Enfin, donc j'espère avoir rendu malgré les contraintes du temps et des chroniques de l'émission, un hommage digne du formidable film de Lelouch, donc réalisé en 1966, il faut le rappeler. Et maintenant, comme introduit précédemment, vous allez entendre le thème principal du film ou le morceau intitulé « Un homme et une femme » composé par Francis Lai. Vous êtes bien sur PFM 99.9 et vous écoutez
Les Décadrés.
Donc c'était la musique d'un homme et une femme composée par Francis Lai. Donc à noter que j'ai redécouvert le film à Cannes lors du festival à l'occasion de la programmation des ciné classiques parce que bon, le film a eu le grand prix du festival en 66 ainsi qu'un Oscar du meilleur film en 67.
D'accord.
Meilleur film étranger, Lelouch a été même nommé dans la catégorie meilleur réalisateur. Et Anouk Aimée dans celle de la meilleure actrice.
Ah, et du coup, Shabalabada quoi.
Pas mal. Voilà, pour revenir sur la redécouverte cannoise, donc le film a été projeté dans sa version tout juste restaurée, que vous pourrez redécouvrir, enfin qui pourrait être découverte par le public lors de sa ressortie publique le 19 octobre 2016. Et maintenant, Ange, oui. Tu vas nous parler d'une destination perdue, d'une Lost Destination.
Tout à fait. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu et découvert tout récemment. Il s'agit d'un film espagnol, le premier film écrit et réalisé par Eduardo Chapero Jackson. Donc oui, auquel dernier nom, ça fait pas vraiment espagnol, ni même le titre du film, c'est pas
c'est
du
un
tout
cousin
espagnol.
Americano-espagnol.
Ouais, c'est ça. C'est peut-être americano-espagnol, mais en fait, la traduction américaine que l'on a, donc Lost Destination, c'est vraiment la traduction que les Français ont donnée au film.
On aime bien faire ça, nous.
Ouais, voilà. C'est pourtant, le nom du film original était parfait. Verbo. Voilà. Ça se dit aussi avec l'accent espagnol, je pense.
Sur les verbes et la grammaire.
Eh ben, tu n'es pas si loin que ça.
Je suis un mec
thème du film. Donc voilà, Verbo même, c'est plus simple à retenir, je pense, que Lost Destination. Donc Verbo fut produit en 2010 et sorti en DVD et en Blu-ray en 2013. Ce qui fait quand même un joli écart, je trouve.
Il est sorti au cinéma ou pas du tout ?
J'ai pas vu de sortie au cinéma, en fait.
Peut-être dans le pays d'origine.
Peut-être en Espagne, je sais pas, j'ai pas trouvé, mais en tout cas, en France, non. Je ne l'ai pas vu en
non.
sortir.
Non.
Tu vas nous parler espagnol pendant toute la chronique. Enfin, tu sais dire que thé et no.
Non. El perro. El perro muy grosso.
Oui.
Le chien est très gros.
Oui, d'accord.
Oui, on poursuit.
Mais sinon, Sarah est une jeune fille de 15 ans, discrète, timide. Elle ne parle pas fort, ni à ses parents, ni à son prof. Elle ne comprend pas le monde qui l'entoure. Elle ne se sent pas concernée.
Non,
elle a envie d'ailleurs. Professeur. Mais ta gueule. Je suis vulgaire là, mais. Ouais, le gars, il aime pas qu'on foire ses chroniques et puis il fait chier, tu vois.
C'est une petite vengeance.
Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai juste lancé en avant ta musique. Petit con. Donc, je disais, elle a envie d'ailleurs, cette jeune Sarah de 15 ans. Donc, elle se comparant à Don Quichotte, personnage qui vit des aventures extraordinaires et imaginaires que personne ne croit. Cette jeune fille recherche un certain Lirico.
Lirico!
Celui-ci, attention, j'essaie de faire outre ce qu'il fait. Celui-ci laisse devant elle un grand nombre de graffitis comportant des phrases très spirituelles, des énigmes en quelque sorte sur sa propre vie. Donc, lors d'une sortie scolaire, elle va quitter le groupe pour suivre une série de dessins de Lirico, lui disant de suivre une mission réelle. Dessins qui lui font comprendre qu'elle doit se suicider.
Je sais pas comment on dit ça en espagnol.
Et oui, c'est vachement gay comme sujet, comme nous n'en sommes qu'au début du film. Ça, c'est vraiment que le début du film. On apprend direct dès le début qu'elle doit se suicider. Ouais. C'est très gay. Donc, je vous ai dit grossièrement les très grandes lignes parce qu'il y a quand même beaucoup de détails que je ne peux pas vous gâcher. C'est donc à partir de son suicide que commence vraiment l'histoire. Donc,
l'histoire de la muerte.
Si. Lost the Destination. Essaye de le dire avec l'accent espagnol.
Verbo.
Donc elle se retrouve plongée dans les méandres de son esprit, accueillie par une équipe du genre gang de skateurs encapuchonnés, plongés dans des égouts macabres. L'équipe de Lirico. Eh oui, en fait, le gars qui fait des dessins est dans sa tête. C'est quelqu'un d'imaginaire.
Wow.
C'est très spécial hein, pour l'instant. Donc là, je vous ai cassé tout le suspense, désolé les amis. Donc il se lance alors dans une série d'épreuves afin de l'empêcher de se suicider. Donc elle est déjà suicidée, mais ils vont l'empêcher de se suicider dans son esprit. D'accord ? C'est, pour l'instant, vous suivez ?
Il y a à côté à la fois Sucker Punch et Alice au Pays des Merveilles.
Et Inception, un peu, je trouve.
Oui, c'est beaucoup.
Donc voilà, c'est à ce moment que je trouve que tout ce qui est marqué sur le boîtier de mon DVD est un peu gros. Il est écrit « Elle a ouvert la porte d'un autre monde ». Je dirais qu'elle l'a carrément enfoncé. Oui, elle se suicide, la pauvre fille, tellement elle
est mal. Elle est même passée à travers la fenêtre d'un autre monde.
En fait, elle n'est pas passée à travers la fenêtre. Elle a foncé dans un miroir au sol qu'elle avait installé elle-même.
Mais elle est morte ou elle n'est pas muerta là ?
Ah bah c'est ça qui est bizarre.
Attends.
Elle se suicide.
Elle a sauté d'un miroir.
Non.
Mais par contre, elle va absolument pas mourir, mais elle va se faire très très mal. Hein.
Non, en fait, il y a des gens dans sa tête qui sont là pour l'empêcher de se suicider. Sauf que dans le film, au début du film, tu la vois clairement en haut d'un immeuble sauter dans un miroir qu'elle a installé elle-même au sol.
Mais elle traverse le miroir ou elle le casse ?
Ah ben, elle le brise et elle tombe dans les égouts, là où il y a le gang.
Tu peux essayer, mais je pense que tu passes à travers le miroir et en même temps tu le brises. Hein.
Récemment, Alice, elle est bien passée du côté, de l'autre côté du miroir.
Donc voilà. Ben, je sais pas, c'est pas vraiment ça, je pense pas. Donc, il s'agit en fait d'un combat dans son esprit pour qu'elle s'empêche de sauter, comme je vous l'ai dit, dans le miroir qu'elle a installé pour se suicider. Oui, elle saute du haut d'un immeuble dans un miroir, je vous le répète.
Magicienne.
C'est assez bizarre. Hein.
Wow.
Donc, ce combat se divise en trois épreuves. La conscience, prendre conscience de ce qu'elle est dans le monde. La parole, en gros, parler, s'exprimer dans sa propre tête. Et l'action, s'exprimer dans la réalité auprès des autres, dire son avis. Donc on voit le personnage presque échouer chaque épreuve pour y arriver par la suite, donc c'est un système assez simple, hein. On la voit galérer au début, elle échoue. Il y a un système aussi très bien, c'est qu'en fait pendant tout le film, on la voit debout en haut de l'immeuble. C'est-à-dire, pendant le combat de son esprit, on la voit sauter au début, donc on sait qu'elle est morte. Et pourtant, pendant tout le combat, les trois épreuves là, que je vous ai expliquées, conscience, parole et action, et ben en fait, ça se passe le temps qu'elle marche jusqu'à sauter. C'est-à-dire que si elle échoue les épreuves, elle avance de plus en plus pour aller sauter dans le vide.
D'accord.
Donc c'est, enfin, quand on voit le film, au début, on se dit ben putain, elle est morte, elle est pas morte, elle est putain, c'est bizarre. Mais au final, ça, c'est quand même assez bien géré, ça passe. Donc elle s'avance vers le bord petit à petit, comme je vous l'ai dit.
Oui.
D'accord. Oui, excuse-moi, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Donc autant vous prévenir que la vue de ce qui se passe dans sa tête est totalement différente de la vision toute mignonne donnée par Disney dans Vice Versa. Vous vous souvenez des petits personnages là qui parlent et tout ? Ben non, là en fait c'est pas mignon,
mais c'est triste.
Bon, ils sont je parle des personnages en particulier. C'est mignon et l'univers est très coloré.
Oui, bien
là,
sûr.
Là t'es dans un univers sombre, première épreuve, elle se retrouve, elle voit sa mère qui meurt, son père qui meurt, enfin voilà. Et faut qu'elle arrive à prendre conscience de ça.
Faut regarder si c'est pas produit par Guillermo del Toro en fait.
Alors, donc ici, elle se balade dans les égouts inondés, dans des égouts inondés, sombres et dégueulasses, comme je vous l'ai dit, ça c'est son esprit. Elle se balade dans des égouts.
Oui.
C'est quand même bizarre. Ce qui correspond tout à fait à l'état d'esprit dans lequel est plongée Sarah, un univers triste et sombre qu'elle veut fuir. Donc je vous laisse maintenant découvrir la suite. Pour ma part, j'ai trouvé le film intéressant au sens visuel. On retrouve en effet différents éléments qui rappellent le jeu vidéo. On retrouve une course, par exemple, avec des rollers sur des rails. Mais en même temps, tout est fait. Ce passage-là est essentiellement fait en dessin animé, mais très réaliste. Et c'est vachement classe. Ça passe super bien. Donc esthétiquement, il est magnifique. Et la réalisation n'est pas dégueu. Mais sur le plan du scénario, j'ai trouvé ça un peu cucu en fait, trop simpliste. Oui, c'est beau d'essayer de montrer une personne qui essaye de s'en sortir face au suicide, mais bon, la personne s'est déjà suicidée dans sa tête, et je trouve les épreuves trop faciles. Elles durent chacune pas plus de 5 minutes dans le film, tout cela pour finir sur des images pleines de couleurs et toutes mignonnes.
Elle s'en sort ou pas du coup ?
À vous de savoir. Donc ok, le propos est très intéressant, mais il faudrait essayer de ne pas trop le rabaisser. C'est pas parce que quelqu'un ne vit pas bien dans sa peau qu'elle est discrète, timide, qu'elle veut forcément suicider.
Oui, mais ça, c'est le cliché.
Voilà, c'est le gros cliché qui est donné dans ce truc, donc c'est un peu dommage. Mais allez voir quand même ce film, il est quand même pas mal. Je vous rappelle le titre, Lost Destination ou Verbo, par les producteurs, attention, du Labyrinthe de Pan et l'Orphelinat.
Ah oui, bah tu vois.
Et premier film d'Eduardo Chapéo Jackson. Donc je vous laisse avec une petite musique qui est passée dans le film.
Eduardo Jackson.
Ah,
l'espagnol est revenu ou bien le mexicain.
Si, vamos, vamos à la playa.
Je vous laisse avec la petite musique qui est pendant le passage. En fait, c'est un rap qui passe pendant le fameux passage en dessin animé. Et c'est de l'espagnol. Quoi.
Es la música.
Je comprends pas tout, mais bon, c'est parti.
Jamás ha visto. Salido y buscar lugar, espacio, tiempo, ver, querer, tener, poder, volver, vivir, seguir atento, calla, observa, espera, anda, obedece, manda, adelanta, sienta, abraza, muerda, nela, vuela, ruja o atraca, que saque, sueños, leyes, ruidos, sonido, prohibido, ricos, pobres, nobles, crueles, seres, muertos, vivos, segundos, minutos,
horas, días, meses, años, calendario, gente mala punta, hora punta, choques, daños, pasan masas, presas, paso, risas, llantos, sueños imposibles, besos, golpes, hombres, damas, vida, amas, siempre libre. Soles, lunas, tierra, cielo, nubes, aire, lluvia, fuego, subes, bajas, pierdes, ganas, tramas, más, planes, más, metas, más, fama, más, cima, más, mañana, más, dramas, más, alma, más, cada más. Ciudadanos, voces, roces, razas, luces, antes, creces, dices, vives, duermes, luchas, pides, instantes, felices, sexo, amor, amigos, enemigos, tratos, socios, pactos, duelos, socios, precios, sanos, vicios, sucios, pelos, calles, bajes, plazas, coches, noches, sombras, nombres, solo quiero recordar, olvidar, inspirar, respirar, calcular, vigilar, piensas, sientes, seres, hablas, decisión, precisión, ambición, ilusión, intuición, expresión, son palabras.
Vous êtes bien sur PFM 99.9 et vous écoutez
Les Décadrés.
Eh ben merci Ange pour cette chouette chronique sur le film espagnol. Antoine, revenons sur Scream.
Hors de question. C'était nul.
Ah bon. J'aimerais que tu me parles du
comme Dragon Ball Evolution.
Non, c'est pas du même acabit.
Du cadre référentiel.
Du cadre référentiel. Qu'est-ce que tu veux savoir?
Quand tu parles à un moment donné, tu dis que c'est un système référentiel.
Oui, en fait, en soi, ce que je disais déjà dans la première saison. On est dans un cumul de références, en fait. Après, références directes, justement, à la série de films de Wes Craven. Par exemple, je peux vous donner un exemple concret. Par exemple, le dernier Total Recall qui est sorti fait énormément de références au premier, en reprenant des petits éléments ou en se permettant des clins d'œil. Et là, c'est beaucoup ça dans Scream, la série. Mais aussi de références, un peu de, entre guillemets, de pop culture adolescente avec tous les personnages stéréotypés et les actions amoureuses, tout ça.
Mais déjà dans les films Scream, il y avait un jeu de référence sur ce qu'était le film d'horreur. Il parlait de Vendredi 13, de Freddy.
Oui.
Il s'en amusait. Mais toi, ce que tu dis, c'est que les remakes ont tendance à jouer de la référence,
justement,
même s'ils veulent se détacher.
C'est du pompage, en fait. Pour moi, c'est plus du pompage.
C'est jouer sur la nostalgie, non ?
C'est ça, c'est jouer sur la nostalgie. C'est un peu au final ce qu'a fait Jurassic World avec
Jurassic World, qui a normalement une suite, mais qui est en fait un remake.
Non, mais voilà. La différence avec les films de Wes Craven, c'est que dans les films de Wes Craven, on avance toujours dans un trip métaphysique où on est entre réalité. Fiction avec Scream, en fait, tandis que là il n'y a pas ce vœu de flirter justement avec l'inquiétude du spectateur ni de le surprendre, en fait. On prend des schémas préétablis, on les reprend à notre sauce format série et on les adapte sans saveur. Enfin, moi je trouve que c'est très décevant.
Le spectateur devient juste passif, alors que chez Craven il était vachement acteur.
Et c'est comme la création de faux suspense, quoi, dans la première saison. Ouais. C'est ce que je disais. Enfin, j'invite ceux qui ont déjà écouté la première saison à écouter ce passage-là.
En tout cas, c'était fort intéressant. Merci à vous pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.
Tout à fait. Pourquoi pas la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Non, je peux pas. J'ai un barbecue.
Sur cette bonne note, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'était les Décadrés sur PFM 99.9.
Peux-tu me faire une voix plus claire?
Good morning, Vietnam!
Are you drinking?
Tonight we present a very warm little story called Kill With Time.
On a déjà besoin qu'on a un peu dans le studio. On laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule. Chatois, ça passera à l'antenne.
C'est cool, ça va arriver les voisins.